Il est 19h30 à Abidjan. Merci d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris où il est 20h30.
Afrique Soir sur RFI, Zéphirin Quadio.
Bonsoir à toutes et à tous. En Côte d'Ivoire, Simone Eyivé sera la candidate du mouvement des générations capables à la présidentielle d'octobre 2025. L'ex-épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo a été désignée cet après-midi lors de la première convention de son parti. En Namibie, on attend toujours les résultats des élections générales au dernier jour d'un scrutin prolongé dans quelques bureaux de vote à cause de défaillances ayant privé de nombreux électeurs de déposer leur bulletin. C'était mercredi. Réaction ce soir de l'opposant tchadien Max Kemkoy à l'annonce par le Tchad de la fin de ses accords de coopération militaire avec Paris. Une décision motivée selon lui par un besoin de confiscation du pouvoir par le président Mahamat Idriss Déby. Oui, en Côte d'Ivoire, Simone Eyivé, officiellement candidate à l'élection présidentielle d'octobre 2025. L'ex-épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo a été investie cet après-midi par son parti, le Mouvement des Générations Capables. Cela s'est passé à Mossou, le village natal de l'ancienne première dame. Cette investiture était une formalité pour Simone Eyivé, Benoît Almeras.
La présidente du MGC était la seule à briguer l'investiture de son parti créé il y a 2 ans. Après une cérémonie de plusieurs heures, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo a reçu l'écharpe orange de candidate du MGC. Elle s'est exprimée pour exposer ses priorités comme la réconciliation nationale, la transformation du pays ou encore la souveraineté ivoirienne. Un discours devant plusieurs centaines de délégués et des représentants d'autres partis de l'opposition, parmi eux le vice-président du PDCI RDA, Noël Akossi-Banjo, ou encore l'ancien ministre de la Jeunesse et chef du COGEP, Charles Blégoudé, lui-même inéligible. A noter l'absence de représentants du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo. L'un des enjeux du jour était donc de jauger le poids politique de Simone Eyivé. Ces derniers mois, la première dame a notamment été porte-parole du collectif des partis d'opposition pour exiger, entre autres, plus de transparence dans l'organisation des élections. Une chose à retenir ce soir, un peu plus de 6 ans après son amnistie par l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara, Simone Eyivé compte bien briguer la présidence l'an prochain. Benoît Almeras, Mossou, RFI.
En Namibie, l'attente se prolonge mais touche à sa fin. Après 3 jours de scrutin prolongé, perturbé par des défaillances électroniques, les premiers résultats partiels des élections générales sont sur le point d'être dévoilés ce soir. La clôture de cette prolongation est prévue à 21h, heure locale, soit 20h, heure de Paris, avec l'annonce notamment des résultats provisoires dans la foulée, selon la commission électorale. On attend toujours. En tout cas, c'est un moment décisif pour ce pays, habituellement salué pour sa stabilité. Mais aujourd'hui suspendu à l'issue d'un scrutin au résultat incertain. Christina Okello.
Toute la journée, des centaines d'électeurs ont fait la queue devant le seul bureau de vote de la capitale Windhoek. Certains ont attendu jusqu'à 12 heures sous un soleil de plomb pour pouvoir déposer leur bulletin. Pourquoi un tel désordre? La commission électorale de Namibie pointe des problèmes logistiques. Pénurie de bulletins de vote, surchauffe des tablettes électroniques servant à vérifier l'identité des électeurs. Pendant ce temps, les files d'attente s'allongeaient. Ce scrutin mobilise particulièrement les jeunes. Il représente 42% des 1,5 million d'électeurs inscrits et s'inquiète du chômage et des inégalités sociales. La bataille est serrée entre Netumbo Nandi Daitwa, candidate du parti historique, la SWAPO, et Panduleni Itula, principal opposant. Les observateurs s'interrogent, la SWAPO va-t-elle résister à cette vague des jeunes électeurs, comme celle qui a déjà balayé des partis historiques dans la région, à commencer par la Botswana? Dans la presse locale, les couacs logistiques soulèvent des vives interrogations, nourrissant les soupçons de fraude avant même l'annonce des résultats.
Christina Okello, et ce soir, le principal opposant Panduleni Itula affirme qu'il ne reconnaîtra pas le résultat, je cite, des élections marquées par des défaillances d'organisation ayant empêché de nombreux électeurs de voter. Nous ne pouvons qualifier ces élections de libres, équitables et légitimes, a dénoncé l'opposant lors d'une conférence de presse des élections qu'il entend donc faire annuler selon les procédures prévues. En République démocratique du Congo, le débat sur une éventuelle révision de la constitution de 2006 s'intensifie. L'association congolaise de droit constitutionnel qui regroupe des personnalités comme Évariste Évariste Bochab, ancien président de l'Assemblée nationale, et Dieudonné Kalouba, ancien président de la Cour constitutionnelle, saluent l'initiative du président Félix Tshisekedi. Le chef de l'État prévoit effectivement de convoquer une commission d'experts en 2025 pour éclairer le débat. Hier, dans leur déclaration, ces juristes ont affirmé qu'ils agiraient avec indépendance et objectivité, guidés uniquement par l'intérêt du peuple congolais. Le sujet divise la classe politique. L'opposition y voit une manœuvre politique. À Lubumbashi, par exemple, le FCC, plateforme de Joseph Kabila, et Ensemble pour la République de Moïse Katumbi sont opposés au projet. Les partis politiques de Matata Ponyo, de Martin Fayoulou et de Seth Kikuni se sont joints au FCC et ont publié ce samedi en fin de matinée une déclaration commune devant des centaines de militants. Les suites de l'annonce par le Tchad de la fin de ses accords de coopération militaire avec Paris. Annonce faite jeudi soir, quelques heures après le départ du chef de la diplomatie française en déplacement à N'Djamena. Son homologue tchadien, Abderrahmane Koulamallah, a assuré qu'il ne s'agissait pas de remettre en question les relations, je cite, « historiques » entre les deux pays. Hier, la France a réagi en disant prendre acte de cette décision et d'ajouter qu'elle entendait poursuivre le dialogue. Je vous propose d'écouter la réaction de l'opposant tchadien, Max Kemkoy, porte-parole du groupe de concertation des acteurs politiques et président de l'Union des démocrates pour le développement et le progrès.
C'est inattendu, dans la mesure où il n'y a pas un mois, à la lumière de ce que M. Jean-Marie Bockel a laissé entendre, que le gouvernement tchadien opte pour le maintien de la présence militaire française au Tchad. Mais qu'est-il arrivé? Parce que le pouvoir de Mohamed Idriss Déby Itno fait de la surenchère politique. Il voudrait profiter pour faire un peu monter les bretelles, pour obtenir d'eux d'abord la relecture et la modification de l'accord révisé du 5 septembre, de façon à protéger davantage son pouvoir après les législatives. Mais aujourd'hui, ce n'est ni une réponse aux besoins d'émancipation des peuples tchadiens, ce n'est ni aussi une question de souveraineté nationale. J'en veux pour preuve, les Américains ont leur base militaire en Allemagne. Est-ce que cela suppose que l'Allemagne n'est pas souverain? Non, la question de souveraineté ne s'y pose pas. C'est une question absolument des besoins de confiscation du pouvoir. Monsieur Mohamed Idriss Déby Itno fait de la surenchère politique pour obliger le gouvernement français de marcher dans ses ambitions à lui.
Propos recueillis par Nadia Ben Mahfoud. Chaque année, le prix Raoul Follereau de l'Académie française récompense une personnalité engagée dans la lutte contre la lèpre, une maladie infectieuse qui se manifeste notamment par des lésions sur la peau et qui peut entraîner une stigmatisation des malades. Jeudi, le prix a été remis à titre posthume à Sœur Joanie pour son engagement auprès des malades de la lèpre à Madagascar. Cette infirmière responsable du centre de santé d'Ampas dans le sud de la Grande Île est décédé en juillet dernier. Le docteur Bertrand Cochois, médecin conseiller de la Fondation Raoul Follereau, résidait jusqu'à il y a quelques mois à Madagascar, où il appuyait le programme national de lutte contre la lèpre.
La lutte contre la lèpre, depuis la nuit des temps, elle a souvent été soutenue par des congrégations religieuses, notamment catholiques, et c'est le cas à Madagascar, où dans une misère extrême, lutter contre la lèpre sans s'associer à ces congrégations religieuses qui drainent les malades et qui leur apportent tout le réconfort derrière les traitements, ça serait quasiment impossible. Donc Sœur Joanie, elle animait un gros centre de prise en charge des malades de la lèpre dans le sud du pays. Et donc cette sœur, elle était sur les soins, sur l'accompagnement pour l'éducation des enfants, sur tout un processus de réinsertion des malades et engagée aussi sur les populations pour essayer de prévenir la maladie et l'exclusion. C'est une maladie très stigmatisante, c'est une malédiction divine, c'est une sorcellerie. Malheureusement, c'est encore des croyances qui demeurent à Madagascar. Et du coup, l'action des sœurs qui vont, par exemple, construire des écoles, ils voient que les sœurs font un boulot formidable et on arrive un petit peu à banaliser cette maladie dans les endroits où sont basées les sœurs.
Mon propos recueilli par Magali Lagrange. Et puis en sport, le Sénégal vient de remporter son troisième match de suite à la CAN féminine de handball. Les Lions se sont imposés face à l'Égypte 21-16 lors de la troisième journée. Ce parcours sans faute vient confirmer la domination des Sénégalaises dans le groupe A. Des Lions qui affirment de plus en plus leur ambition, qui est d'aller le plus loin possible dans cette compétition. La toute dernière pour l'arrière droite, Dungu Camara.
Ça a été un gros match de travail. On a vraiment travaillé. Après, on a été mis dans de vraies conditions pour pouvoir nous évaluer. Les premiers matchs qu'on a eus, ça a été des équipes abordables pour nous en entame de compétition. Et l'Égypte, en tout cas, ils nous ont mis face à un bon exercice aujourd'hui et on a sur le relevé haut la main. Je pense que le retour du vestiaire, on s'est dit que c'était le moment pour pouvoir enterrer le match. Et c'est ce qu'on a fait, ça a été la consigne du coach de ne pas lâcher et ça a été respecté haut la main et la victoire est au bout. Il nous reste encore deux matchs contre l'Algérie et le Congo. C'est de bons adversaires.
Un propos recueilli par Olga Massangou. Et puis dans ce même groupe A, le Congo-Brazzaville a battu l'Algérie 24 à 17. Il est 20h40 ici à Paris. Merci de rester à l'écoute de Radio France Internationale.